Je suis dépendant, bonjour, je m'appelle Pierre. Je suis un petit peu ému là, juste d'être assis devant vous. Vous êtes nombreux, je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux que je ne connais pas encore. Dire bonjour à tous ceux que je connais, que je revois, que je revois. C'est un plaisir d'être ici. Je suis aussi ému parce que... Je suis un petit peu malade en fait, j'ai attrapé la grippe il y a 2 jours et ce matin j'avais la tête vraiment pas bien et j'ai hésité à venir. Hein. Donc j'ai pris la décision quand même de venir parce que j'ai appris ici à ne pas écouter ma tête et à faire et à continuer les engagements que j'ai pris ici. Et puis en arrivant ici, je prends le métro et la ligne 4 pour arriver ici ne marchait plus. Je me suis retrouvé en panne, on va dire, de moyens de transport à 20 minutes d'ici, un peu à paniquer parce que tous les taxis étaient pris, c'est le jour des allées et des départs des gares, les bus étaient pleins à craquer, machin, etc. Et là, ma tête m'a encore dit, là, c'est vraiment une bonne raison pour retourner te coucher. Et donc, j'ai dit merci pour partager, mais je vais continuer à faire ce que je peux, parce qu'en fait, ici, on me demande qu'un truc, c'est de faire ce que je peux. On me demande pas d'aller d'être Superman ou d'aller au-delà de mes moyens. Et donc, j'ai appelé le secrétaire en disant que j'arriverais peut-être un petit peu en retard, et je suis venu bon an, mal an. Mais bon, tout ça fait que je suis pas dans une meilleure disposition pour parler. Je vais quand même essayer de répondre à la demande qui m'a été faite, c'est de vous donner... juste mon expérience de ces 12 étapes, mais aussi ma force et mon espoir, parce que c'est de ça dont il s'agit ici. À ce titre, je voulais remercier les serviteurs de ce groupe de m'accueillir, vous remercier pour votre service, parce que c'est en faisant du service qu'on permet à des gens d'arriver et à sauver des vies humaines. C'est ça le job de Narcotique Anonyme, c'est de sauver des vies humaines. Et donc, c'est génial de voir ça. Et les vies humaines qu'on sauve ne sont pas uniquement les nouveaux qui arrivent. Ça peut être aussi des gens qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui vont mal et qui sont sur le point de retourner consommer. Mais parce que nous sommes là pour les accueillir, parce que nous sommes là pour leur donner de l'amour, ils restent et tout le monde peut rester. Donc... Et je voulais faire une mention spéciale pour mon ami Fred. Vous ne le savez peut-être pas, mais Fred vient à Narcotique Anonyme depuis très longtemps. Et en fait, je crois qu'on est arrivé plus ou moins en même temps. Enfin, moi, je me souviens quand je suis arrivé en 1988. j'étais à l'époque en province, en Savoie, pour exactement nommer le lieu. Et j'étais tout seul, enfermé, bien évidemment, dans les drogues, mais principalement dans ma tête. Hein. Il n'y avait qu'un seul barreau et je tournais autour. Et j'étais très loin de pouvoir entendre le message Narcotique Anonyme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réunion nulle part en France, sauf à Paris. Donc j'étais quand même à 700 km de la réunion la plus proche. Mais en plus, à Paris, il y avait très peu de monde, en fait. Dans Narcotique Anonyme, il y avait, je crois, une quarantaine de personnes. Il y avait une seule réunion par jour. Et donc, c'était tous les jours, c'était les 30-40 mêmes personnes qu'on retrouvait tous les jours. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Fred, parce que Fred, je ne vais pas dire où tu étais, mais disons qu'il était en province et loin, lui aussi, à un autre bout de la France. Et ensemble, on a commencé à s'écrire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Bon, je ne vais pas faire un récit d'ancien combattant, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est juste dire, si tu as envie du rétablissement, Narcotique Anonyme est là. Et que parfois, il faut faire juste le petit effort en plus pour aller le chercher, ce rétablissement. Et à l'époque, c'était donc, on était tous les deux en province et on s'écrivait. On s'écrivait des lettres. Parce qu'il n'y avait pas Internet, donc ça prenait le temps de mettre un timbre sur l'enveloppe, que la lettre aille de l'autre côté du pays. L'autre, il lit la lettre, il répond, et voilà. Et donc, bon, il y avait le téléphone fixe aussi, mais ça faisait partie de notre outil de rétablissement à l'époque, et apparemment, ça a marché, puisqu'on est tous les deux là. Et c'est vraiment un grand plaisir de te voir là, Fred. Pour la petite histoire, comme je parle anglais, il y avait aussi un groupe d'écriture mis en place par les services mondiaux aux États-Unis. Et donc là, c'était des gens qui avaient pas mal de rétablissements et qui, à l'époque, Narcotique Anonyme, démarrait dans plein de petits pays, enfin plein de petits pays, plein de pays différents, pardon, comme la France, mais plein d'autres. Et donc, il y avait un service au sein des services mondiaux qui était d'écrire à tous ces gens qui étaient un peu isolés de pays émergents qui se rétablissaient. Et donc, je me souviens, bon, bien évidemment, je rechutais régulièrement, j'étais tout seul, hein, donc. Voilà, je rechutais. Hein. Je vous rappelle, enfin ceux qui ne savent peut-être pas, la seule condition pour être membre est le désir d'arrêter de consommer. Hein. Ce n'est pas forcément d'être clean. Et donc, j'écrivais aux États-Unis. Donc, c'était genre, hein, j'ai envie de consommer, qu'est-ce que je dois faire, hein. Donc, la lettre partait aux États-Unis, ça mettait une semaine. Un mec me répondait une semaine encore après. Donc, 15 jours après, je recevais la réponse qui était consomme pas juste pour aujourd'hui. C'est un bon. J'ai beaucoup d'émotions à dire ça parce que bon, ça semble complètement délirant aujourd'hui avec les outils de communication qu'on a, la foison de réunions qu'on a à Paris, etc. Mais moi, à l'époque, voilà, on a encore comment ça s'appelle ça? Des frissons. La chair de poule, voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné. Gratuitement de leur temps que j'ai pu commencer à me rétablir. Et donc un jour, je suis arrivé dans ma première réunion à Paris. En fait, c'était mon dealer qui m'a emmené en réunion, puisque je l'avais appelé. J'étais enfermé dans un hôpital psychiatrique. Évidemment, le premier truc que je voulais faire en sortant de l'hôpital psychiatrique, c'était consommer. Donc j'avais appelé pour qu'il me fournisse. Il m'a dit, non, je ne peux pas te fournir. Par contre, j'ai trouvé un truc encore mieux. Et si tu veux, je peux t'y faire goûter. Et donc, pour ça, j'ai dû prendre un train, 700 bornes. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de centre de traitement, hein, il y avait que ENA. Et j'ai pris un train, je suis arrivé à ma première réunion narcotique anonyme, et on m'a donné ça. Et ça, c'est le porte-clés de bienvenue qui est blanc et qui dit juste pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, le concept du juste pour aujourd'hui a été vraiment le facteur complètement déclencheur et révolutionnaire dont j'avais besoin pour faire que ce programme soit attirant. C'est-à-dire que je me croyais très intelligent et j'avais jamais, jamais imaginé que je pouvais arrêter de consommer juste pour aujourd'hui, juste pour un jour. Et quand on m'a expliqué ça, je me suis dit, putain, c'est quand même balèze ce concept. Moi, toute ma vie, j'ai essayé d'arrêter de consommer pour, je sais pas, une semaine, ça va aller mieux, j'en prendrai, ou un mois, ou allez, je vais faire une cure pendant un an. Mais à chaque fois, ça vrillait, je me retrouvais toujours dans les affres de la consommation. Et en fait, ce concept du juste pour aujourd'hui, c'est ce qui a été l'élément vraiment déclencheur pour moi. Je me suis dit, ok, ça, j'adhère. Ça, je pense que c'est plus ou moins faisable dans ma petite tête. Quand vous m'avez expliqué, vous m'avez dit, faut juste pas consommer jusqu'à ce soir, demain on verra. Et ça, je me suis dit, ok, je peux essayer. Et donc, j'ai essayé. Alors, je suis pas là pour raconter ma vie, hein, c'est marqué dans notre littérature, votre passé et les moyens dont vous disposez ne nous intéressent pas. Donc, je ne vais pas parler de mon passé, ni de ma petite enfance, ni d'où je viens, où je suis né, etc. Parce qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas, c'est ce qui est marqué dans la littérature. Par contre, j'expliquais juste ce petit topo-là. En introduction des 12 étapes, hein, puisque c'est le sujet dont on m'a demandé de venir parler, pour dire juste que c'était à l'époque où j'étais en train de consommer, ou aujourd'hui avec 25 ans d'abstinence, le principe est toujours le même. J'ai une maladie qui me met des œillères et m'empêche de voir une réalité plus grande que moi, une force plus grande que moi. Et une méthode de rétablissement plus grande que moi. Cette méthode de rétablissement, elle a été non seulement expérimentée par des milliers, voire des centaines de milliers de dépendants, mais en plus, ils nous ont fait un cadeau, tous ces gens-là, avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. Ils ont pondu cette littérature qui est le concentré de ce qui marche. Et donc, moi, mon job en tant que dépendant en établissement, c'est de prendre cette littérature et de lire ce qui est marqué. Et si c'est marqué, je ne sais pas, bleu, ben, je fais bleu, tu vois. Je ne me dis pas, non, c'est marqué bleu, donc je vais faire rouge, tu vois. Parce que ce que ce programme me demande, c'est capituler à ce programme. Ce programme ne me demande pas de créer le programme Narcotique Anonyme version Pierre 2.0, tu vois. C'est pas ça qu'on me demande. On me demande, voilà, il y a 12 étapes. Si tu suis les 12 étapes et les 12 traditions, tu as une chance de rester clean un jour à la fois pour le reste de ta vie. Parce que, bien évidemment, l'idée, c'est d'être clean un jour à la fois, mais c'est aussi d'être clean un jour à la fois de manière à ce que ça marche dans le temps. Parce que si ça marchait que pour une semaine, on ne serait pas là. Et la bonne nouvelle, c'est oui, ça marche dans le temps. Moi, le parrain du parrain de mon parrain a 42 ans d'abstinence, par exemple. Il continue. Je l'ai vu l'autre jour. Il habite aux États-Unis. Il va en réunion. Il a du service. Il bosse ses étapes. Tout comme nous, pareil, hein. Il n'y a pas le rétablissement, tu vois, la cour des grands où il y a les super secrets qu'on garde, qu'on te révèle à partir du moment où tu as 30 ans clean, tu vois. Non, non, le truc, il est le même. Moi, je suis comme vous, pareil comme vous. J'essaye juste de rester clean jusqu'à ce soir, hein. Le reste, alors après, évidemment, on a des différences d'opinion politique, sociale, d'éducation, de culture, de machin, etc. Mais ici, on s'en fout de ça. Ici, on est tous dans le même bateau. On a tous un même but qui est de rester clean. Le reste, ça n'a rien à voir ici. Et ce qui est génial, quand je dis on est tous dans le même bateau, c'est qu'en plus, on a des traditions qui nous suggèrent de tous ramer dans le même sens. Parce que sans ces traditions, on rame évidemment pas tout à fait dans le même sens. Et ça fait que le bateau peut tanguer. Et moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que tant que je reste au centre du bateau, j'ai peu de chances de tomber. Donc, je reste au centre du bateau. Si mon parrain, il me dit rame dans ce sens-là, je rame dans ce sens-là, et puis je ferme ma gueule. Il y a plein de fois, évidemment, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, je fais ce qu'on me dit. Donc, mon parrain de l'époque, qui malheureusement est mort du sida clean, entre-temps, et que je remercie pour ce qu'il m'a donné à l'époque. On était une bande de gens, on était, je vous dis, une quarantaine. Et c'était assez remarquable ce qui se passait parce que on était tous très très jeunes dans l'abstinence et dans le rétablissement. On était une espèce de tribu qui avançait un peu dans le désert et dans le on va dire le brouillard. Le plus ancien avait 4 ans clean et il démarrait sa 4e étape. Au-delà de ça, c'était territoire inconnu. Et donc, on se tenait les coudes, tu vois. On était là, on avançait. Quand un nouveau arrivait, tu vois, on lui donnait tous dans le numéro de téléphone. S'il venait pas le lendemain en réunion, on l'appelait en disant « Bah alors, t'es où? » machin, etc. Et donc, c'était une période, comment dire... Voilà, on savait pas ce qu'il y avait devant. On avait, voilà. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Il y a beaucoup plus on est beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup plus de temps clean, donc on a beaucoup plus de références. Il y a maintenant des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les cultures, de tous les âges, de tous les sexes, de tous et donc. C'est marqué aussi dans notre littérature. Donc, vous allez m'entendre citer beaucoup de fois la littérature, mais c'est mon point de référence, que plus notre base grandit, plus notre point de liberté qui est en haut de la pyramide, hein, puisque notre symbole est donc une pyramide, donc avec 4 côtés, hein, et donc plus cette base grandit, qui est nous, hein, la base de Narcotique Anonyme, plus le point qui est en haut de liberté individuelle grandit aussi. Et donc, ça corrobore ce que dit la première tradition, c'est que tant que notre bien-être passera en premier, notre bien-être commun passera en premier. Ça dit très exactement, notre bien-être commun, pardon, devrait passer en premier. Le rétablissement personnel dépend de l'unité de NA. Tant que NA va bien, moi je vais bien. Donc mon job, c'est faire que NA, le groupe, va bien, et ce faisant, ma liberté grandit. Et donc je commence un petit peu avec la fin, parce que je voudrais juste dire un petit mot sur cette liberté dont on parle, à Narcotique Anonyme, dans notre symbole, qui est aussi, à mon avis, qui fait écho à ce que la 12e étape parle, quand la 12e étape parle d'éveil spirituel. Pour moi, il y a une symétrie un parallèle. C'est que, oui, on a une maladie, oui, on est dépendant, oui, on vient se rétablir d'une maladie qui est quand même mortelle, mais vers où on va ? Et on va vers, justement, ce point de liberté, ce point d'éveil spirituel, ce point qui n'est pas... alors, c'est pas un concept New Age tu sais, un jour, on arrivera à ce lieu où tout sera rose, et Dieu me parlera directement à travers les nuages, et je serai aimé, et j'aurai plus de problèmes, etc. Non, les merdes arrivent dans la vie, hein, et d'être clean sur la longueur fait qu'on expérimente la vie. On expérimente des succès, on expérimente aussi des défaites, on expérimente des réussites, on expérimente des déceptions, mais c'est parce qu'on est clean qu'on peut expérimenter tout cela, c'est la vie. Il n'y a aucune personne sur le monde qui vit une vie où tout est rose tout le temps. Ça n'existe pas. Ça, c'est un leurre. Et donc, le point de liberté dont on parle, dont Narcotique Anonyme parle, c'est la liberté de la dépendance active, bien évidemment. Mais Narcotique Anonyme fait référence à trois promesses, qui est, un, que n'importe quel dépendant peut arrêter de consommer. Deux, que n'importe quel dépendant peut perdre le désir de consommer. Et trois, que ce dépendant peut trouver un nouveau mode de vie. Et ce nouveau mode de vie-là, il est bien évidemment libre à chacun de décider. Quelqu'un veut devenir footballeur, l'autre il veut devenir dentiste, le troisième il veut devenir, je ne sais pas, mécanicien. Tout va bien, on est libre d'avoir la vie qu'on veut. Mais c'est la liberté dont Anna parle, c'est bien évidemment la liberté de la dépendance active. Et puis plus chemin faisant, moins d'ego et plus de liberté par rapport à cet ego qui nous crée souvent de gros problèmes. Voilà sur le préambule. Je parle beaucoup, hein. Alors heureusement que c'est limité dans le temps, mais je suis passionné. Il y a par exemple une phrase que j'aime beaucoup dans notre nouvelle littérature qui est malheureusement pas encore traduite du Living Clean. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le début du livre qui dit « Nous passons du désespoir à la passion ». Et vraiment, ça a été mon expérience dans le rétablissement. Je suis devenu passionné. Quand je consommais, j'étais passionné par mon pourvoyeur de drogue. Le pharmacien, le bar, le dealer, machin, etc. Aujourd'hui, je suis passionné par d'autres trucs. Alors, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est malheureusement... Je suis compulsif, hein, donc je suis intéressé par plein de trucs. Mais en tout cas, il y a une chose par laquelle je suis passionné, c'est le rétablissement, les 12 étapes et les 12 traditions de Narcotique Anonyme. Donc, voilà, je lis beaucoup la littérature ENA, je vais écouter des gens de Narcotique Anonyme, et je suis passionné parce que chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, j'ai de plus en plus de liberté et de joie de vivre dans ma vie. Donc je continue, bien évidemment. Alors, ceci étant dit, je reste dépendant, donc je reste... soumis et contraint à cette maladie qui est vicieuse. Hein, et donc, la première étape, on y arrive, nous dit que nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Cette première étape parle pas, bizarrement, il n'y a pas le mot drogue dans cette première étape. Alors, je ne voudrais pas froisser oui, je voudrais froisser personne, mais c'est pas marqué « nous avons admis que nous étions impuissants devant la drogue ». C'est marqué « nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance ». La drogue fait partie de notre dépendance. La drogue est la conséquence de notre dépendance. Donc, pour accéder au rétablissement, l'abstinence est le premier pas qu'on fait vers la liberté. Mais une fois qu'on a arrêté de consommer, on est... encore empreint de cette maladie. Et justement, c'est pour ça qu'il y a 12 étapes pour nous apprendre à vivre clean avec cette maladie. Ok? Donc quand cette étape nous dit que nous avions perdu la maîtrise de notre vie, je continue encore aujourd'hui à perdre la maîtrise de ma vie. Il y a plein de domaines où voilà, je ne suis pas parfait, personne ne me demande d'être parfait, sauf ma maladie, qui se fait un plaisir fou à me taper dessus dès que je ne suis pas parfait, tu vois. Et comme mon parrain me dit, il me dit, ça fait moins mal de dépasser la ligne jaune de temps en temps. Alors, je parle pas des drogues, hein. Là, on parle d'abstinence, hein. Mais la ligne jaune peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça fait moins mal de dépasser la ligne jaune de temps en temps, mais de s'accepter avec ça et de se donner l'amour avec ça, que dès que je dépasse la ligne jaune, me taper dessus parce que je crois que je dois devenir parfait avec ces étapes. C'est vraiment ça, c'est de la maladie. Et beaucoup dans... Enfin, j'ai parlé pour moi. Ça a été ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à dépasser ce truc-là. Vraiment, d'arriver à me dire, OK, je suis imparfait, je fais des conneries, et ça va. Alors, la bonne nouvelle avec ces étapes, c'est que chaque étape pose un peu, on va dire, fait un constat, ou pose fait un constat. Et l'étape suivante, généralement, donne la réponse au constat qui est fait dans l'étape précédente. Et donc, c'est clair que si on restait, imaginez que ce programme ne fasse qu'une étape, qui soit que celle-là, et que ce soit tout, on serait dans la merde, parce que bon, on est impuissant face à la dépendance, on a perdu la maîtrise de la vie, point barre. Bon, on fait quoi maintenant? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et que Narcotique Anonyme nous invite à trouver une solution autre que notre petite tête. Moi, ma petite tête, elle m'a quand même conduit en prison, en hôpital psychiatrique, j'ai plié je ne sais pas combien de bagnoles, overdose, ma famille, c'était vraiment la destruction, enfin plus personne ne voulait me parler, j'ai quand même fini presque à la rue, tu vois. Donc ça, c'était mes meilleures idées quand même. Donc, la dinguitude, elle était présente et est encore un peu là de temps en temps. Donc, j'ai besoin de m'ouvrir à un truc plus grand que moi. En anglais, ils disent « power greater than ourselves ». Bon, en français, on a traduit ça par « puissance supérieure ». Je ne vais pas faire un cours de rhétorique sur les questions de traduction, mais sachez que, je dois juste souligner que pour moi, cette traduction n'est pas tout à fait exacte, parce que le mot « supérieur » entendrait qu'il y a un inférieur, qui est moi, et que la puissance est supérieure, et donc qu'elle est au-dessus de moi. Aujourd'hui, je suis convaincu que ce pouvoir plus ample que moi-même, il est à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion, pour moi en tout cas, de féodalité, ça se dit en français, hein. Je suis égal à ma puissance supérieure, dans le sens où elle n'est pas... c'est pas Dieu sur un nuage qui m'attraque quand je fais des conneries et qui m'envoie des cadeaux quand je déconne. C'est pas du tout ça. J'ai vraiment eu besoin, dans mon établissement, de créer un lien d'intimité avec ce qu'on appelle ici la puissance supérieure. Quelque chose, putain, mais si c'est pas mon meilleur ami, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ça doit être quelque chose vers lequel je puisse me retourner, que je sois... hystérique de joie ou totalement déprimé, seul ou en groupe, malade ou en bonne santé, pauvre ou riche, etc., qui doit aller au-delà de tout ça, vers lequel je puisse me retourner et trouver paix et sérénité, ne serait-ce que pendant une seconde. Parce que c'est cette seconde-là qui va peut-être me sauver la vie. Parce que je suis sur le point de faire une grosse connerie. Et donc, c'est carrément génial, ce truc, parce que cette deuxième étape, elle nous dit, cette force, ce pouvoir plus ample que moi, si je veux bien, peut me ramener à la raison. Et je peux vous assurer qu'en 25 ans d'abstinence, la raison m'a été rendue. Pas partout, pas aussi vite que j'aurais voulu dans tous les domaines, Mais je vous donne un exemple. En ce moment, alors que ma famille ne voulait plus entendre parler de moi, j'étais quand même le vilain petit canard, tu vois, genre, on ne veut plus entendre parler de toi, tu vois. Aujourd'hui, là, je suis dans une situation familiale où il y a un membre de ma famille qui est à l'hôpital, en train de vivre ses derniers jours. Et c'est moi, le membre de la famille, qui a été choisi pour faire le lien entre cette personne et le reste de la famille. Enfin, je me retrouve dans une position. Putain, j'aurais jamais cru que ma famille m'élise pour être là pour eux, quoi. Donc, il y a eu transformation. Moi, j'ai pas trop. Je la sens pas, la transformation. Ça se fait très lentement. Mais putain, il y a eu transformation. Ces gens-là me font confiance aujourd'hui. Et donc cette troisième étape, pour aller vers la troisième étape, maintenant que le problème a été posé, première étape, je suis impuissant devant la maladie, deuxième étape, il y a une force en moi-même qui peut me ramener à la raison, troisième étape, c'est simple, il te pose une question, hein. Est-ce que tu es prêt à confier voilà, ta volonté, parce que quand même, on est quand même tous, moi le premier, très dingue, avec une volonté déchaînée, c'est moi je veux tout de suite, ça, maintenant, etc. Est-ce que je suis prêt à confier ma volonté et ma vie à justement une force bienfaitrice qui me veut du bien? Alors, je sais que le mot Dieu est usité dans nos étapes, je fais exprès de pas trop en parler, parce que malheureusement c'est un mot qui a une connotation extrêmement forte, religieuse et autres, et que, en tout cas pour moi, j'étais très en rébellion vis-à-vis de ce concept. Donc, je crois qu'il faut faire le petit exercice mental de passer outre ce mot, qui est très très chargé, et de, pour moi, très souvent, ce Dieu tel que nous le concevons, c'est tout simplement l'association de Narcotiques Anonymes. Hein. Moi, je suis hyper basique à ce niveau-là. Et donc, est-ce que je suis prêt à confier ma volonté et ma vie à un ensemble de gens qui a expérimenté cette maladie et qui a trouvé des solutions que moi j'ai pas trouvées tout seul et qui peuvent être là pour m'aider si je fais l'effort pour leur demander de l'aide. Est-ce que je suis prêt à faire ce pas-là? C'est tout, Donc voilà, 1, 2, 3, c'est un peu un espèce de pas de danse, hein, acceptation avec la première étape, foi avec la deuxième étape, et capitulation dans l'action avec la troisième étape. Et ce bloc-là, 1, 2, 3, je peux le répéter dans n'importe quel domaine de ma vie, à n'importe quel temps clean de ma vie. Je peux le pratiquer pour. Si je consomme encore, je peux le pratiquer si j'ai juste une semaine clean, et je peux le pratiquer si j'ai plein de temps clean. Parce que c'est. Et j'avais entendu un dépendant qui disait l'autre jour, nous dépendants, on est des créatures d'habitude. Donc si un dépendant, tu lui donnes de la drogue pendant 90 jours, devinez ce qu'il va faire le 91e jour. Il va prendre de la drogue. Okay? Indépendant, tu lui donnes du rétablissement pendant 90 jours, tu vois, il va en réunion pendant 90 jours, devine ce qu'il risque de faire le 91e jour. Il risque d'aller en réunion. Voilà. Donc, c'est juste une question d'habitude, ce truc, tu vois. Et c'est à force de pratiquer que, la bonne nouvelle, ça devient automatique. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus à faire d'efforts pour ne pas appeler mon dealer. C'est devenu mon quotidien. J'ai plus à faire d'efforts pour ne pas m'arrêter dans une pharmacie et demander des cachetons. C'est devenu mon quotidien. À ne pas faire d'efforts. Je peux passer devant une pharmacie sans que j'ai envie de rentrer dedans. J'ai plus à faire d'efforts pour ne pas rentrer dans un bar et me saouler. Je peux passer devant un bar, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que j'ai pratiqué ça. Et donc, ayant pris cette décision, je sais pas, je dois accélérer peut-être un petit peu. Ouais. Bon, je vais accélérer. Ayant pris cette décision, on me propose de faire un inventaire dans la quatrième étape. Pourquoi? C'est parce que moi, je ne sais pas. Quand je suis arrivé à ENA, tout était mélangé. C'est-à-dire que j'étais juste un bougli-bougla d'émotions, d'idées, d'historique, enfin tout un tas de merde. Mais je ne savais pas faire la différence Par exemple, entre voler et gagner de l'argent. Voilà, pour moi c'était la même chose. Il y a de l'argent, bon tu te démerdes. Ou... Enfin pour moi c'était 10 lettres exactement. Mais voilà, il y a de l'argent, je me démerdais comme je pouvais, etc. Et donc l'inventaire me permet de... bah, c'est un inventaire, c'est pas une psychothérapie, c'est pas une analyse. C'est juste un inventaire. La quatrième étape, c'est marqué, hein, nous avons fait un inventaire moral et sans peur approfondie de nous-mêmes. C'est juste un inventaire. Et donc l'inventaire, je fais un inventaire. Voilà. Donc on me propose de mettre mes qualités d'un côté, mes défauts de l'autre. Voilà, en résumé. Hein. Je la fais simple. Et dans la cinquième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va, avec le parrain ou la marraine, on va juste faire le tri. Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut jeter? Je vous le donne en mille. On va avoir envie de jeter de toute la merde et ce qui va pas, et on va garder les qualités et ce qui marche. Donc, la cinquième étape, comme c'est encore marqué dans notre littérature, c'est pas une simple lecture de la quatrième, c'est un peu un tri, hein, comme il y avait un tamis géant. On fait le tri entre voilà, ce qui marche et ce qui marche pas. Et dans ce qui marche pas, c'est quand même bien de voir les mécanismes de la maladie de la dépendance. Pour se familiariser avec et puis de s'en débarrasser. Donc, dans notre littérature, c'est marqué que les mécanismes de la maladie de la dépendance sont obsession, compulsion, déni et égocentrisme. Donc, quand je suis sur un de ces trucs-là, je sais que je suis empreint de la maladie. Parce que des fois, on ne sait pas. Hein, je peux être dans la rue et je me pose des questions et je me dis, mais est-ce que je suis dans l'établissement? Par exemple, là, ce que je vous ai raconté. Est-ce que c'était le rétablissement de venir ici en réunion alors que je suis malade, ou est-ce que j'aurais mieux fait de prendre soin de moi et de rester au lit? Bon, j'ai fait un choix. Mais et donc de connaître les mécanismes de la maladie de la dépendance me permet d'avoir un peu comme une boussole et d'être guidé dans ça. Et donc la cinquième étape me permet justement de faire le tri et donc de mettre de côté vraiment ce qui marche pas dans ma vie, qui est en tout cas pour moi, hein, parce que la cinquième étape nous dit, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. La nature exacte de nos torts, qu'est-ce que c'est, si ce n'est la racine de la maladie. Pour moi, ça a été la peur et l'égocentrisme. Voilà. Au-delà de la peur et l'égocentrisme, je vois pas ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que si j'ai consommé, c'est parce que j'avais peur. Si j'ai volé, c'est parce que j'étais égocentrique. Merci. Si j'étais... voilà, tous mes comportements ont comme racine la peur et l'égocentrisme. Donc, même chose, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, définition du problème. L'étape d'après nous donne la solution. Et, ok, bon, c'est ça ton problème, sixième étape. Et ben, justement... Il y a une solution pour ça, qui est la sixième étape, où on te propose, nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous ses défauts de caractère. Putain, c'est une bonne nouvelle. Je peux mettre mes défauts de caractère dans une énorme poubelle et attendre que les éboueurs passent et l'enlèvent. J'ai rien à faire. Moi, je trouve ça super fort. Je trouve ça super fort. Là, il y a mon parrain qui m'a raconté une histoire à propos de la sixième étape que je vais vous dire. Imagine que tu fais une vinaigrette. Tu fais une vinaigrette, donc tu prends de l'huile et du vinaigre. Okay. Et puis, tu goûtes ta vinaigrette et il y a trop de vinaigre. Donc, le vinaigre étant les défauts de caractère. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu as ta vinaigrette, il y a trop de vinaigre dans ta vinaigrette. Tu arrives à enlever le vinaigre de ta vinaigrette? Goutte par goutte? Non. Par contre, si tu rajoutes de l'huile, eh ben, il y a moins de vinaigre. Eh ben, donc, pour remplacer la peur et l'égocentrisme, qui est le vinaigre, je rajoute de l'huile, qui est l'amour et la foi. Et donc, un jour à la fois, hein, c'est un processus, hein, c'est marqué dans notre littérature, c'est un processus qui prend toute une vie. J'essaye à partir de là d'avoir une vie basée sur l'amour et la foi plutôt que sur la peur et l'égocentrisme. Alors, c'est pas simple, hein, je le dis comme si c'était super facile, mais c'est évidemment pas simple du tout pour, en tout cas, le bonhomme que je suis. Mais en tout cas, c'est une sacrée, pour moi, chance de pouvoir avoir cette solution, parce que sans ça, franchement, si j'avais pas l'espoir que je pouvais vivre une vie avec moins de peur et moins d'égocentrisme, je ne sais pas si je serais resté sur la longueur. Parce que ce qui peut me bouffer dans mes tripes au plus profond de moi, c'est ma peur et mon égocentrisme. Il y a des matins, je peux me réveiller, je suis tétanisé, je ne peux pas me lever. Et c'est là où Enam propose de me dire, voilà, remets-toi à une force d'amour et de foi, et tu vas arriver à mettre un pas devant l'autre, et c'est exactement ce qui se passe. Et je fais ça un jour à la fois. Et donc, dans la septième étape, ce qui pointe vers la septième étape, c'est, donc nous avons, nous lui avons humblement demandé de nous enlever nos déficiences. Pour moi, la septième étape est un peu comme la première étape, je fais un constat d'impuissance, c'est-à-dire que la différence entre la sixième et la septième étape, pour moi, c'est un peu comme si tu coupes une ronce, donc t'as coupé la racine, mais la ronce, elle pique encore. Donc dans la sixième étape, tu te débarrasses de la racine, mais les déficiences, ça pique encore. Et donc, je continue à déconner dans certains domaines dans ma vie. Et c'est là où je fais un constat d'impuissance, où je vois que je ne peux pas... Je ne peux pas m'enlever ça moi tout seul, hein. je ne peux pas m'auto-extraire les trucs. Et donc, on propose toujours encore cette force supérieure à moi-même, à qui je demande humblement de m'enlever mes déficiences. Alors mes déficiences, ça peut être tricher, mentir, voler, voilà. Mais ce qui apparaît clair, c'est que... quand je fais cette liste, je m'aperçois que si je triche, je triche vis-à-vis de quelqu'un. Si je mens, je mens vis-à-vis de quelqu'un. Si je passe mon temps à arriver en retard, j'arrive en retard par rapport à quelqu'un. Donc il y a toujours, si jamais, c'est très maladif de croire que je suis seul sur Terre. Mes actes ont des conséquences. Ce que je fais a des conséquences sur les autres. Et donc... la solution à la septième étape, c'est, ok, tu demandes humblement, vraiment humblement, à ce que ça te soit enlevé, tes déficiences. Ok, bon, on va voir si t'es humblement prêt. On va mettre des noms en face de tes déficiences. Donc, en face du nom tricher, je vais mettre un nom, Bob. En face du nom mentir, je vais mettre un autre nom, je sais pas quoi, Caroline. En face du nom voler, je vais mettre encore un autre nom. Et c'est ça, la huitième étape. C'est juste mettre des noms en face de mes déficiences. Et dans la neuvième étape, où nous avons directement fait un amende honorable à ces personnes, dans tous les cas où c'était possible, sauf lorsque ça pouvait leur nuire ou faire tort à d'autres, qu'est-ce qu'on me demande tout simplement ? On me demande d'aller réparer ma merde, parce que j'ai blessé des gens avec mes conneries. Donc on me dit, va les voir, regarde-les dans les yeux, dis-leur, voilà, j'ai fait ça, comment est-ce que je peux réparer ? Et c'est ce qu'ils vont dire sur ce qu'ils souhaitent comme réparation qui sera la volonté de ma puissance supérieure à mon égard. Dans mon cas personnel, quand j'étais voir ma mère, j'avais préparé le carnet de chèques parce que je me suis dit on s'entendait pas du tout à l'époque. Je me suis dit, je lui fais un chèque et je me barre. Sauf que quand je lui ai dit, comment est-ce que tu souhaites que je m'amende, elle m'a dit, je souhaite que tu passes plus de temps avec moi. Ce qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est ce que j'ai fait. Et ce faisant, en réparant mes torts, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe deux choses. D'une part, je m'engage vers un nouveau mode de vie dans lequel je vais mentir moins, je vais voler moins, je vais tricher moins, etc., de manière à ne pas recommencer. Et donc, c'est comme ça que mes déficiences vont m'être enlevées, tout simplement. Je fais amende honorable et je m'engage vers un nouveau mode de vie. Encore une fois, on ne me demande pas d'être parfait. NA est principalement là pour limiter la casse. Je vous donne un exemple. Imaginez une falaise en Normandie. Il fait très très beau. Je marche au bord de la falaise avec ma copine. Tout va bien. On est amoureux. Tu vois, c'est... Il y a juste le vent parfait, tu sais, la petite brise sympa qui rafraîchit parce qu'il fait chaud et en même temps, pas... la mer est bleue au fond, le ciel est bleu au fond. On voit les voiliers. Et à ce moment-là, j'entends une voix qui me dit pousse-la. Tu vois? Eh bien, Narcotique Anonyme, c'est juste le truc qui me permet de me dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est tout. Et juste cet espace-là, la raison peut m'être rendue en me disant non, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Et je continue. Voilà. Alors, ceci étant dit, on pourrait imaginer qu'à la fin de la neuvième étape, tout est réglé. Bon, je connais 1, 2, 3, je connais 4, 5, 6, je connais 7, 8, 9, c'est plié. Eh bien, pas encore tout à fait. Parce que maintenant que j'ai fait le ménage avec mon entourage, je m'aperçois que dans ma journée, j'ai toujours une voix qui me parle du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche et qui me dit « T'es qu'un gros con, tu n'iras nulle part, tu n'es qu'une grosse merde, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien, etc. 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 » Cette voix, vous la connaissez, sinon vous ne seriez pas ici. Et donc, la dixième étape, qui dit « Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et avons promptement admis nos torts dès que nous en sommes aperçus », pour moi, ça s'agit de ça. C'est-à-dire que l'inventaire personnel dont il s'agit là, c'est juste de reconnaître que j'ai cette voix qui me parle et que je ne suis plus du tout, à ce stade-là, obligé de m'identifier. Je ne suis pas un tas de merde, j'ai de la valeur, ce que je fais, c'est bien, pas tout le temps, mais en tout cas, de temps en temps, et que, en fait, l'inventaire qu'on me demande de faire, là, à ce moment-là, c'est juste ça, de reconnaître que j'ai cette voix-là et que cette voix n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas. Il y a, tu vois, là, j'ai une bouteille d'eau, elle existe, elle est là. Mais cette voix, elle est où? Il y a, c'est pas un organe. Un organe, c'est un bras ou un cœur, etc. Cette voix-là qui me parle, si un chirurgien me découpe mon corps, il ne trouvera pas la boîte où il y a la voix. Ça n'existe pas. Cette voix n'est qu'une illusion. Et l'inventaire que je dois faire, c'est juste ça. Et donc, promptement admettre mes torts dès que je me suis aperçu, c'est juste, est-ce que je suis en train d'agir en fonction de ce que cette voix à la con me dit, ou pas? Et donc, cette dixième étape, en fait, elle est géniale, parce qu'elle fait la séparation entre qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ressens. OK? Et pour moi, là, il y a un aiguillage génial qui est, si dans ma journée, j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire me laver quand je me réveille, me brosser les dents, appeler mon parrain à la réunion, faire mon boulot, dire bonjour à la dame en sortant, me coucher le soir, voilà. Et ben c'est clean. Et ben ça, c'est une journée réussie, même si je me suis senti comme une merde toute la journée. La dixième étape me propose de me focaliser sur mes actes plutôt que sur mes pensées ou mes émotions. J'ai des émotions qui peuvent m'emporter très très loin, mais la réalité, la réalité des choses, c'est qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc la dixième étape pour moi met l'accent là-dessus. La onzième, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous concevons, le priant seulement pour connaître sa volonté à notre égard pour obtenir la force de l'exécuter. Alors, pour moi, s'il y a une étape dangereuse dans Narcotique Anonyme, c'est celle-là. Parce que celle-là, elle ouvre la porte à toutes sortes de concepts New Age, religieux, spirituels, etc. Alors, pour moi, il y a une première lecture de cette onzième étape, c'est la volonté de Dieu à mon égard, c'est d'être clean. Déjà. Et donc... prier seulement pour connaître sa volonté à mon égard et force de l'exécuter, c'est ok, il veut que je sois clean aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour être clean? Appeler mon parrain, faire mon service, aller en réunion, accueillir un nouveau, répondre à mes filleuls, enfin des trucs que j'ai pas envie de faire des fois, hein. Rester 25 ans, vous allez voir qu'au bout d'un moment, chier, hein. Et donc, c'est une première lecture de la 11e étape, et on peut en rester là. Okay. Demander à Dieu si je dois devenir dentiste ou mécanicien et obtenir la force de l'exécuter, machin, etc. Pourquoi pas ? Mais, parce que j'ai peu de temps, je ne vais pas parler de ça. Mais, à voir. Par contre, ce dont je voudrais parler, puisque la 12e étape fait référence à ayant connu un éveil spirituel, donc ayant connu un éveil spirituel dans la 12e étape veut dire qu'on a connu un éveil spirituel avant, donc avec la 11e étape. Enfin, de 1 à 11, on va dire. Pour moi, l'éveil spirituel de la 11e étape, pour aller dans la continuité de la 10e, hein, où j'ai bien précisé que c'était vraiment comprendre que cette voix qui me parle est une illusion totale, n'a aucune réalité en soi. La 11e étape me permet de mettre un peu comme un microscope sur ce qui se passe dans ma tête, hein, avec l'outil de la méditation, avec l'outil de la prière, pour m'apercevoir que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis ce qui ressent mes pensées, je suis ce qui ressent mes émotions, mais je ne suis pas que mes émotions et que mes pensées. Je suis bien autre chose. Alors, je ne vais pas vous dire ce que moi j'ai trouvé là-dedans, hein, puisque la 11e étape nous invite à chacun trouver notre propre conception. On n'est pas dans des dogmes ici. Hein. Chacun est libre de trouver. Mais en tout cas, dans le cadre de Narcotique Anonyme et dans le cadre de la maladie de dépendance, moi, ça m'a vachement libéré de comprendre que ce petit moi auquel je passe mon temps à m'identifier et à taper des poings sur la table en disant « j'ai pas ce que je veux maintenant, il me faut ça, je veux aller là, nanana », comme une espèce de petit gamin toujours frantique qui veut obtenir son jouet là, maintenant et tout de suite, c'est pas mon identité, ça. Et donc, cette 11e étape m'invite à voir qu'est-ce que je suis. Et c'est là où je crois que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot... Toutes les étapes commencent par le mot « nous ». Pourquoi ? C'est parce que, en tout cas, ce que moi j'ai trouvé, c'est que ce que je suis dans ma réalité, ce que la maladie de la dépendance m'empêche de voir, c'est justement cette partie de moi qui est pareille à vous tous. On n'a pas la même couleur de peau, mais on est pareil. On n'a pas le même sexe, mais on est pareil. On n'a pas le même âge, mais on est pareil. Et Narcotique Anonyme, en utilisant le mot « nous », quelque part nous donne une indication, justement, sur ça. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Ce qui m'empêche de me rétablir et ce qui me sépare de vous, c'est cette tête qui me dit « je suis différent de vous ». Et quand je suis sur, justement, ce truc de « non », ce que je suis réellement, c'est cette je ne sais pas comment l'appeler, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, c'est très intime, mais d'être sur cette présence qui nous relie tous, qu'on partage tous en commun, là, pour moi, je suis dans la 11e étape. Et pour moi, l'éveil spirituel, il est là, donc avec la 12e étape, qui commence par « ayant connu un éveil spirituel comme résultat de ces étapes », effectivement, je suis passé de quand je suis arrivé quelqu'un d'extrêmement égocentrique, qui consommait des drogues, etc., à quelqu'un qui, aujourd'hui, pense plus au groupe qu'à soi-même, on va dire, 60% du temps. et ça, c'est une vraie révolution. Et ce pourcentage ne fait que grandir. Et donc, ayant expérimenté ça, c'est un peu comme si j'ai trouvé une espèce de trésor. Et donc, bien évidemment, nous avons essayé de transmettre ce message aux dépendants. Bien évidemment, j'ai envie de le partager avec tout le monde. Et ce message auquel il fait référence, ce n'est pas que le message d'arrêter de consommer, c'est le message aussi d'un nouveau mode de vie et d'un éveil spirituel. Et c'est marqué aux dépendants, et ce n'est pas marqué que aux dépendants qui consomment encore, c'est marqué transmettre ce message aux dépendants, et ce message aux dépendants, ça peut être un ancien qui est assis au fond de la salle, qui a 20 ans clean et qui est sur le point de se tirer une balle parce qu'il n'a plus d'espoir. Et notre job en tant que nous, là je parle du nous maintenant, en tant que groupe, c'est justement de donner l'espoir à tout le monde. Parce que cet ancien-là, qui peut être assis au fond de la salle et qui n'a plus d'espoir, peut-être qu'un jour, ça sera vous. En tout cas, ça a été moi un jour. C'est pour ça que je peux en parler. Et d'appliquer ces principes à tous les domaines de notre vie, bien évidemment, l'honnêteté ne se cantonne pas à un seul segment. Je ne peux pas être honnête avec toi et pas honnête avec toi. Ça, c'est un peu comme l'air. Tu vois, l'air, on la partage tous. Et donc, plus je pratique ces principes dans tous les domaines de ma vie, plus, évidemment, le rétablissement fait sa place. Pour finir, les étapes ne s'arrêtent pas là. Il y a après les traditions. Et la première tradition va dans ce sens du nous, hein, parce qu'elle part de notre bien-être commun. L'aventure continue. Et donc, ça sera sûrement le sujet, peut-être, si... Si vous me réinvitez, je ne sais pas, vous avez peut-être détesté ce que j'ai raconté, les traditions sont pour moi l'autre face de la pièce. C'est-à-dire qu'autant les étapes sont le côté pile, les traditions sont le côté face. C'est-à-dire que les traditions sont la mise en pratique de ce nous. Comment nous, en tant que groupe, on fonctionne et interagissons de manière à faire ce pour quoi on est fait en tant qu'association, c'est-à-dire transmettre le message aux dépendants qui souffrent encore. Merci pour votre écoute. Merci.